Chapitre 21.
Depuis combien de temps? Demanda Chase.
Les sept hommes à l'air féroce qui se tenaient en demi-cercle devant Rachel et lui le regardèrent en sillant. Ils n'avaient pas d'armes à part un couteau à la ceinture, et l'un d'eux ne s'embarrassait même pas de ça, mais les types campés derrière eux brandissaient tous des lances ou des arcs. Rachel resserra les pans de son manteau autour d'elle et sautilla sur les orteils, histoire de réchauffer ses pieds gelés. Elle en avait des picotements tellement il faisait froid. Elle caressa du bout des doigts la pierre ambrée en forme de larme qui pendait à son cou accrochée à une chaîne. Ce contact délicat la réconforta. Chase marmonna quelques paroles incompréhensibles et du bout de son bâton désigna les deux silhouettes qu'il avait dessinées dans la poussière. Les bandoulières de cuir de ses armes émirent un concert de grincements quand il se pencha pour tapoter le sol, puis montrer les plaines du bras.
« Depuis combien de temps sont-ils partis ? » répéta-t-il.
Les sept sages, ou un truc dans le genre, débitèrent ensemble un petit discours auquel Chase et Rachel ne comprirent rien. Puis l'homme aux longs cheveux gris, celui qui ne portait pas de peau de coyote sur l'épaule, mais une simple tunique en peau de daim, dessina autre chose dans la poussière. Rachel reconnut le soleil. Sous le regard attentif de Chase, le sage traça trois rangées de marques au pied de son dessin.
« 3 semaines ?» lança le garde-frontière. « C'est ce que vous voulez dire ? Ils ont quitté le village depuis 3 semaines ?»
L'homme hocha la tête. Sidin tendit à Rachel un autre morceau de pain plat fourré au miel. C'était délicieux. La fillette tenta de le savourer lentement, mais elle l'engloutit en un clin d'œil. Au château, quand elle était le jouet humain de la princesse Violette, elle avait goûté du miel, une seule fois car sa maîtresse le lui interdisait, mais une cuisinière lui en avait donné en douce. L'estomac de Rachel se révulsa au souvenir de ce que la princesse lui avait infligé. Pas question qu'elle retourne un jour vivre au château. Et maintenant qu'elle était la fille de Chase, ça ne risquait plus d'arriver. Chaque nuit, avant de s'endormir, elle se demandait comment était le reste de la famille. Son nouveau papa l'avait prévenu qu'elle aurait des frères et sœurs, et une vraie maman qu'elle devrait respecter et aimer. Aucun problème. Il était facile d'aimer et de respecter les gens quand ils vous rendaient l'appareil. Chase l'aimait. Il ne le lui avait jamais dit, mais c'était facile à deviner. Dès qu'elle avait peur d'un bruit dans le noir, il la serrait contre lui et lui caressait la tête. Sidine sourit à Rachel tout en léchant ses doigts poisseux de miel. Elle était vraiment contente de le revoir. Mais à leur arrivée dans le village, elle avait eu une frousse terrible. Des hommes couverts de boue, avec des broussailles sur tout le corps, les avaient interceptés dans les plaines comme s'ils sortaient de nulle part. Rachel avait failli mourir de peur en entendant les cris de ses guerriers qui pointaient tous leurs armes sur eux. Impassible comme toujours, Chase s'était contenté de descendre de cheval. Après l'avoir prise dans ses bras, il avait fait face aux hommes sans même daigner dégainer son épée. Décidément, il n'avait peur de rien. Et personne au monde, sans doute, n'était aussi courageux. Sous le regard des guerriers, il lui avait murmuré de ne pas avoir peur, et il avait eu raison puisque les hommes, leurs armes baissées, s'étaient décidés à les conduire au village. Là, Rachel avait retrouvé Sidine, le petit garçon qu'elle connaissait depuis que Callan l'avait arraché au geôle de la reine Milena. Zed, Callan, Chase, Sidine et elle avaient voyagé ensemble quand ils tentaient de fuir avec la boîte magique. Rachel ne comprenait pas la langue de son ami, mais il avait expliqué à son père qui ils étaient. Après, tout le monde s'était montré gentil avec eux. Chase désigna les deux silhouettes, rapprocha ses deux doigts et les pointa en direction des collines.
« Richard et Callan sont partis vers le nord, en direction d'Aidindril. »
Les sept hommes hochèrent la tête et répétèrent
« Callan, Aidindril !»
« Et Richard ?»
Il désigna l'autre silhouette.
« Avec Callan ?»
Le sage aux cheveux gris secoua la tête. Montrant la personne représentée avec une épée, il indiqua une autre direction. Chase plissa le front interloqué. Le sage prit un bâton et dessina trois nouvelles silhouettes. Des femmes en jupe d'équitation. Puis il en barra deux d'un grand X.
Elles sont mortes, c'est ça?
Demanda le garde-frontière. Ses interlocuteurs ne bronchant pas, il se passa un doigt sur la gorge, figurant une lame.
Mortes? Mortes?
Répéta l'homme aux cheveux gris avec un accent si traînant que ce mot terrible en parut comique. Avec son bâton, il désigna de nouveau le soleil, puis l'image de Richard et celle de la femme survivante, et indiqua une autre direction. Chase se leva lentement.
« Vers l'est, droit dans le pays sauvage, et sans Callan. »
Le garde-frontière se gratta le menton, et Rachel lui trouva l'air soucieux. Pas effrayé, ça, ce n'était pas possible.
« Par les esprits du bien, pourquoi Richard est-il parti par là? Et comment Callan a-t-elle pu le laisser faire? Et avec qui chevauche-t-il ? »
Les hommes à la peau de coyote se regardèrent, étonnés que leur visiteur parle ainsi tout seul. Chase s'agenouilla de nouveau, pointa le bâton sur la troisième femme et plissa le front en regardant les sages. L'homme aux cheveux gris soupira tristement. Après avoir tendu un index sur la même femme, il prit une corde à un des chasseurs et l'enroula autour de son cou, puis il désigna l'image de Richard. Sous le regard noir de Chase, il tira sèchement sur la corde en direction de l'est. Enfin, il tapota l'image de Callan avec son bâton, se toucha une joue du bout des doigts, les faisant onduler pour figurer des larmes et se tourna vers le nord.
Chase se releva d'un bond. « Cette femme a capturé Richard !»
grogna-t-il.
« Et il l'a forcé à partir vers l'est !»«
Chase !» dit Rachel en approchant. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Callan n'est-elle pas avec lui ?»
Le garde-frontière baissa les yeux sur la fillette. Son expression bizarre lui noua l'estomac.
« Elle est allée chercher de l'aide. Auprès de Zed, en Aydinril. Esprit du bien, si Richard s'enfonce vraiment dans le pays sauvage, faites qu'il ne prenne pas vers le sud. Sinon, même Zed ne pourra plus rien pour lui. »
« C'est quoi le pays sauvage ?»
demanda Rachel en serrant très fort sa poupée.
« Un endroit dangereux, ma chérie, » murmura Chase. « Oui, très dangereux. »
La manière dont il prononça ces mots avec un calme glacial donna la chair de poule à la fillette. Zed sentit les muscles de sa monture jouer sous ses fesses au moment où il se pencha pour éviter une branche et tira sur les rênes afin de faire ralentir l'animal. Le vieux sorcier adorait chevaucher accru. Tant qu'à se percher sur un cheval, il entendait l'encombrer le moins possible. Après tout, ce n'était que justice. La plupart des équidés appréciaient l'attention, et sa jument actuelle ne faisait pas exception à la règle. Il obtenait davantage d'elle que s'il l'avait affublée d'une selle, et il n'hésitait pas à lui demander de gros efforts. Zed avait offert sa selle et ses harnais à un type appelé Haf. Le pauvre garçon avait les plus grandes oreilles qu'il ait jamais vues sur un être humain. Avec des esgourdes comme ça, qu'il se soit déniché une femme tenait du miracle. Pourtant, il en avait une avec quatre gamins à la clé et semblait avoir sacrément besoin de cette selle. Pas pour chevaucher, bien sûr, mais histoire de la vendre. Un bon moyen de remplacer les réserves que les soldats de Dara avaient réquisitionnées. Une juste récompense. Rachel était trempée jusqu'aux os, et ce brave Haf leur avait offert un endroit où dormir. Bien que peu confortable, la petite grange vidée de son contenu était parfaitement sèche. Sans rien demander en retour, l'épouse du fermier leur avait proposé une assiette de soupe aux choux, aussi claire fut-elle. Quand le sorcier avait prétendu n'avoir pas faim, voir la tête de Chase avait bien valu le sacrifice d'une selle. Le colosse avait mangé pour trois, un manque de délicatesse regrettable. Cet hiver, la famine sévirait, et l'argent de la selle ne suffirait pas jusqu'au retour du printemps, mais il permettrait peut-être à cette gentille famille de passer le plus dur de la saison froide. Zed avait vu le garde-frontière glisser une pièce dans la poche de chacun des enfants, à un moment où il croyait que personne ne le regardait. Son ton bourru, quand il leur avait dit de ne pas fouiller dans leurs poches avant son départ, aurait fait blêmir un adulte. Pour une raison mystérieuse, les enfants avaient souri. Tous les gosses adoraient ce fichu Chase. Zed espérait qu'il ne leur avait pas donné des pièces d'or. Si le garde-frontière pouvait entendre un voleur ouvrir une fenêtre à une ville d'écart et sans doute préciser son prénom, il manquait un peu de bon sens dès qu'il s'agissait d'enfants. Huff avait demandé, vaguement soupçonné, à quoi il devait s'engager en échange de la selle. « Simplement, avait répondu Zed, à jurer fidélité à la mère inquisitrice et au nouveau seigneur Rall, qui avait mis fin aux exactions dont le pauvre fermier avait tant souffert. » L'homme avait vigoureusement hoché la tête sous le ridicule bonnet à pompons qui attirait dramatiquement l'attention sur ses oreilles démesurées.
« Marché conclu !»
avait-il lancé. Un bon début. Un loyal sujet contre une selle inutile. Si tout continuait aussi bien, il n'y aurait pas à se plaindre. Mais cela remontait à quelques semaines. À présent, le sorcier voyageait seul. Une odeur de bois de bouleau brûlé lui apprit qu'il approchait de sa destination. Bien avant d'apercevoir la maison blottie dans l'épaisse végétation, Zed entendit le vacarme. Des meubles qui se renversent, des ustensiles de cuisine qui se brisent, et un chapelet de jurons. Sa jument tendant nerveusement les oreilles, le sorcier lui tapota l'encolure. À la pâle lumière du crépuscule, il aperçut enfin la maison, si bien nichée entre les arbres qu'on aurait pu ne pas la remarquer. Zed descendit de cheval.
Reste tranquille et trouve-toi quelque chose à brouter, dit-il à la jument de plus en plus nerveuse. Mais ne t'éloigne pas trop, compris?
La bête hennit doucement.
Brave fille.
De la maison monta un rugissement rauque ponctué d'une série de cliquetis. Quelque chose atterrit lourdement sur le parquet et une voix rauque lança
« Sors de là-dessous, sale monstre !»
Zed sourit en reconnaissant le timbre chevrotant de la dame des ossements. Adi, pour les intimes. Il jeta un coup d'œil à la jument qui s'était attaquée à une touffe d'herbe bien grasse puis avança vers la maison. Il remonta lentement l'allée qui serpentait jusqu'à la porte, s'arrêta au milieu et pivota sur lui-même pour admirer la splendide forêt. Quel calme et quelle paix en un lieu qui donnait naguère accès à un des endroits les plus dangereux au monde, la frontière. Mais elle avait disparu à présent. La forêt était désormais un paisible refuge, plein d'une tranquillité qui n'avait rien de naturel. Tout cela venait des mains talentueuses de la sacrée bonne femme qui éructait en ce moment même des jurons assez crus pour faire rougir un lancier sandarien vétéran d'une demi-douzaine de batailles. La comparaison n'avait rien d'arbitraire. Jadis, il avait vu un de ses soldats insulter sa propre reine au point qu'elle s'en évanouisse. Bien entendu, cela lui avait valu le gibet. Le gaillard ayant dit sa façon de penser au bourreau, celui-ci s'était arrangé pour qu'il n'ait pas le cou brisé net, lui donnant l'occasion de lancer une dernière tirade aussi éloquente que vulgaire. Les autres lanciers avaient semblé apprécier le spectacle. La pauvre reine, qui avait eu quelque mal à recouvrer sa régalienne dignité, s'empourprait comme une pivoine dès qu'elle croisait un de ses lanciers, forçant ses servantes à jouer furieusement de l'éventail pour l'empêcher de tourner de l'œil. Si ces fiers guerriers n'avaient pas plusieurs fois sauvé son trône et évité le tranchant de la hache à son cou délicat, nul doute qu'elle les aurait tous fait pendre haut et court. Mais tout ça remontait à des lustres, à l'époque d'une autre guerre. Les mains croisées dans le dos, Zed s'emplit les poumons d'un air vivifiant. Se penchant un peu, il cueillit une rose sauvage fanée et, avec un rien de magie, lui rendit toute sa splendeur. Après avoir humé le parfum de la fleur, il la glissa lentement sous sa tunique. Rien ne le pressait. Il fallait être mal avisé pour interrompre une dame des ossements pendant une bagarre. L'objet de la colère d'Adi vola à travers la porte ouverte, propulsé par le tranchant d'une hache que le sorcier vit briller sur le seuil. Le monstre à la carapace indestructible atterrit au pied de Zed, sur le dos, heureusement. Pas plus gêné que ça par le coup de hache, le vol plané et l'atterrissage, il essaya de se remettre dans le bon sens en zébrant frénétiquement l'air avec ses griffes. Une saloperie de piège à loup. Un de ces monstres s'était ainsi pris jadis à la cheville d'Adi. Une fois ses griffes refermées sur la chair, la créature ne lâchait plus sa proie, lui brisant les os et la vidant lentement de son sang avec ses crocs. Elle n'abandonnait jamais une victime avant de l'avoir tuée, sa carapace bloquant toute contre-attaque. Adi avait utilisé sa hache pour s'amputer de la cheville que le piège à loup refusait de lâcher. Cette idée retournait l'estomac du sorcier. Après avoir contemplé le monstre un moment, il lui flanqua un solide coup de pied, l'envoyant rouler au loin. Remis sur ses pattes, la créature s'enfonça dans la forêt à la recherche d'une proie plus coopérative. Zed tourna la tête vers la femme debout sur le seuil. Les yeux complètement blancs, elle continuait d'éructer des insultes, le souffle un peu court. Vêtue d'une tunique toute simple, comme le vieil homme, elle portait au col les broderies jaunes et rouges symbolisant sa profession. Sa fureur considérable ne parvenait pourtant pas à cacher la beauté de ses traits délicatement ridés. Elle tenait toujours sa hache, un signe qui incita Zed à la plus grande prudence. Mieux valait ne pas la perturber tout de suite avec la véritable raison de sa visite.
« Adi, tu ne devrais pas t'amuser avec les pièges à loup. La dernière fois, ça t'a coûté un pied, si tu t'en souviens. »
Et il tira la rose de sous sa tunique et sourit.
« Tu as quelque chose à grignoter, je meurs de faim. »
Adi le regarda un moment en silence, puis elle posa sa hache près d'elle, le manche appuyé contre la cloison.
« Que fiches-tu ici, sorcier ?»
Zed avança, se fendit d'une révérence théâtrale, puis offrit la rose à la dame des ossements comme s'il s'agissait d'un bijou à la valeur inestimable.
« Restez loin de tes bras si tendres et au-dessus de mes forces, belle dame de mes pensées. »
« Du blabla, Zédicus, »
lâcha Adi.
« N'est-ce pas le fumé d'un ragoût qui monte à mes narines ?»
demanda Zed en tendant un peu plus la fleur. Adi la saisit et la piqua dans ses courts cheveux noirs striés de gris. « Elle était vraiment superbe, » pensa Zed aux anges.
« C'est bien un ragoût, oui. »
Elle prit la main du sorcier et sourit.
« Je suis content de te revoir, Zed. Un moment, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais. J'ai passé des nuits entières à me retourner dans mon lit couverte de sueur. Je savais ce qui se passerait si tu échouais. Quand l'hiver est arrivé sans que la magie d'Ordaine ravage le monde, j'ai compris que tu avais réussi. »
« Darkenral a été vaincu, oui, »
répondit Zed sans trop se mouiller.
« Richard et Callan s'en sont sortis ?»«
Oui, en fait, c'est Richard qui est venu à bout de Ral. »«
À mon avis, c'est un résumé un peu rapide. »«
Oh !» concéda Zed, « c'est vrai qu'il y aurait deux ou trois petites choses à ajouter. »
Adi ne fut pas dupe.
« Tu n'es pas venu là pour moi, et quelque chose me dit que je ne vais pas apprécier la raison de ta visite. »«
Fiche très foutre, femme, vas-tu enfin me servir de ce ragoût ?»
grogna le sorcier en libérant sa main de celle d'Adi.
« Je pense qu'il y en aura assez, même pour toi, »
marmonna la dame des ossements.
« Suis-moi et ferme la porte, j'ai vu assez de pièges à loup pour aujourd'hui. »
Zed était invité. Bien, tout se déroulait comme prévu. Il se demanda ce qu'il allait être obligé de lui dire. Pas tout, espérait-il. Utiliser les gens, la méthode classique des sorciers. C'était toujours désagréable, surtout quand on les aimait. Alors, quand on les aimait beaucoup... Pendant qu'il aidait la dame des ossements à redresser les meubles et à ramasser les ustensiles encore intacts, il commença à lui raconter ce qui s'était passé depuis leur séparation. Il insista sur son héroïque traversée du passage du roi, sous la protection du pendentif, un os évidemment, qu'elle lui avait confié. Un talisman, précisa-t-il, qu'il portait toujours sur lui bien que la frontière n'existât plus. Adi l'écouta en silence. Quand il en fut à la capture de Richard par la mort de Sith, elle ne se tourna pas vers lui, mais il la vit se raidir une fraction de seconde. Sans lésiner sur l'emphase, il révéla que Darkenral avait volé à Richard la pierre de nuit qu'elle lui avait donnée pour qu'il puisse s'éclairer dans la passe du roi.
« Cette pierre a failli me coûter la vie, »
dit-il en regardant sa compagne qui ne tressaillit pas.
Darkenral voulait me piéger dans le royaume des morts. Bref, en offrant cet artefact à Richard, tu as manqué signer mon arrêt de mort.
Ne joue pas les imbéciles, sorcier,
grogna Adi.
Tu es assez futé pour prendre garde à ta vieille carcasse. Si je n'avais pas remis la pierre à Richard, il serait mort dans la frontière et Darkenral aurait gagné. En ce moment, il serait occupé à t'ouvrir les entrailles, donc indirectement je t'ai sauvé la peau.
Cette pierre était dangereuse,
s'indigna Zed en secouant vigoureusement le tibia qu'il venait de ramasser.
On ne distribue pas les artefacts comme s'il s'agissait de bonbons et sans même prévenir les gens.
Il avait bien le droit de râler. Après tout, qui était passé à un souffle de séjourner pour toujours dans le royaume des morts? Adi aurait au moins pu faire semblant d'être désolé. Il sauta à l'épisode où Richard était venu à leur rencontre, son identité hélas dissimulée par une toile d'ennemi. Puis, il mentionna l'attaque des deux quatuors contre Callan, Chase et lui-même. Il dut empêcher sa voix de trembler quand il décrivit ce qui avait failli arriver à l'inquisitrice, qui avait finalement invoqué le Kundar et tué leurs adversaires. En guise de conclusion, il raconta comment Richard avait forcé par la ruse Darkenral à ouvrir la mauvaise boîte. La magie d'Orden, ajouta-t-il, s'était chargée du maître. Histoire de finir sur une note romantique, il informa Adi que Richard avait réussi à échapper au pouvoir de Callan. Les deux jeunes gens étaient désormais libres de s'aimer. Bien entendu, il ne précisa pas comment le sourcier avait accompli cet exploit, car nul ne devait le savoir. Il se réjouit d'avoir pu raconter toute l'aventure sans s'apesantir sur ses épisodes les plus tragiques. Réveiller certaines blessures en lui ne lui disait rien qui vaille. Adi ne posa pas de questions. Approchant du vieil homme, elle lui posa une main sur l'épaule et se déclara ravie que tout se soit aussi bien terminé. Zed se tut et entreprit de ranger les cubitus, les tibias et autres radius là où elle lui indiquait. À la façon dont ils étaient éparpillés, le piège à loup avait dû tenter de se réfugier dans une ou plusieurs piles. Une erreur tragique. Le surnom « Dame des ossements » allait comme un gant à Adi, qui semblait bel et bien consacrer sa vie aux os. Pour une femme dotée d'un pouvoir, c'était plutôt étrange. Chez elle, il n'y avait pas trace des poudres, des potions et des gris-gris qu'on se serait attendu à trouver. Les femmes comme elle, on les appelait souvent des magiciennes, se limitaient en général aux créatures vivantes. Adi explorait un univers sombre et dangereux. La mort. Hélas, c'était exactement ce que Zed entendait étudier aussi. Pour en savoir plus long au sujet du feu, il fallait s'en approcher. Bien évidemment, c'était un moyen radical de se faire brûler. Au moment où cette analogie s'imposa à son esprit, le vieux sorcier sut qu'il la trouvait détestable. Il posa un dernier os sur une pile et tourna la tête vers Adi.
« Si tu ne veux pas que des pièges à loups se baladent chez toi, tu devrais fermer ta porte. »
Son plissement de front réprobateur, une merveille du genre, échappa à la dame des ossements, occupée à remettre le bois de chauffage en place à côté de la cheminée.
« La porte était fermée,
lâcha-t-elle,
et verrouillée. Pourtant, c'était mon troisième visiteur. »
Elle ramassa un os tombé derrière une petite bûche et l'apporta à Zed.
« Avant, les pièges à loups ne s'aventuraient jamais près de ma maison. Je m'en assurais. »
Elle tendit l'os au sorcier qui entreprit de le mettre en place.
« Depuis le début de l'hiver, ils s'enhardissent. Mes os ne les tiennent plus à l'écart et je ne sais pas pourquoi. »
Adi vivait à l'entrée du passage du roi depuis des lustres. Personne au monde ne connaissait mieux les dangers de ces lieux, ni ce qu'il fallait faire pour être en sécurité à la lisière du royaume des morts. Mais la frontière n'existait plus et il n'y aurait plus dû avoir de péril. Zed se demanda ce qu'elle lui cachait d'autre. Les femmes comme elle ne disaient jamais tout ce qu'elles savaient. Pourquoi vivait-elle toujours ici alors que des événements étranges se produisaient? Parce qu'elle était têtue comme une mule? Une bonne explication dès qu'il s'agissait d'une magicienne.
« Tu nous fais de la lumière ?»
demanda-t-elle au sorcier. Boitant un peu, elle traversa lentement la pièce. Zed tendit une main vers la table. La lampe s'alluma toute seule,
éclairant mieux que le feu de cheminée les murs noirs décorés d'eau blanchâtre, la plus étrange collection que le sorcier ait vue de sa vie.
« Pourquoi boites-tu ? »
lança-t-il. Adi lui jeta un regard en coin et décrocha une louche pendue au mur.
« Le nouveau pied que tu m'as fait pousser est trop court. »
Un point sur sa hanche osseuse, un index squelettique sous le menton, Z étudia le problème. Obligé de partir très vite après son intervention en faveur d'Adi, il n'avait pas remarqué ce petit défaut de taille.
« Je pourrais allonger un peu la cheville, » marmonna-t-il presque pour lui-même, « ça égaliserait les choses. »
Adi approcha du chaudron qu'elle venait de remettre sur le feu, un miracle qu'il n'ait pas été renversé, et grogna
« Non, merci, ça ira comme ça. Tu ne voudrais pas que tes deux pieds arrivent au même endroit ?»« Je suis ravi que tu m'aies redonné un pied. Avec la paire, la vie est beaucoup plus facile. » Et au fond, je détestais devoir me servir d'une béquille, mais ce pied me va très bien comme ça. »
Elle prit une louche de ragoût et souffla dessus.
« Tu marcherais encore mieux avec des pieds de la même longueur ?»« J'ai dit non !»
fit Adi avant de goûter sa préparation.
« Fichtre et foutre, femme, pourquoi donc ?»
Adi tapota la louche sur le bord du chaudron et la remit à sa place. Puis elle saisit une boîte en fer-blanc sur le manteau de la cheminée et dévissa le couvercle.
« Je ne veux plus jamais connaître une douleur pareille. Si j'avais su, je me serais résigné à finir mes jours avec un seul pied. »
Elle prit une pincée du mélange d'épices dans la boîte et en saupoudra le ragoût. Zed se tritura l'oreille, pensif. Elle avait peut-être raison. Faire repousser ce pied n'était pas passé loin de la tuer. Bien sûr, il ne s'était pas attendu à ce qu'elle réagisse ainsi à une utilisation aussi intensive de la magie. Pourtant, il avait réussi, y compris quand il avait fallu éliminer la douleur liée au souvenir d'Adi. À ce jour, il ignorait toujours la nature de ses réminiscences, mais il aurait dû envisager qu'elle ait enfoui dans sa mémoire une telle souffrance. Il avait négligé la deuxième leçon du sorcier, trop pressé de faire du bien à la Dame des Ossements. C'était le problème avec la deuxième leçon. Le plus souvent, on ne s'apercevait pas qu'on y contrevenait.
« Tu connais le prix de la magie, Adi, presque aussi bien qu'un sorcier. En plus, j'ai tout arrangé. Je parle de la souffrance, bien sûr. »
Rallonger un peu sa cheville ne nécessiterait pas autant de magie. Après ce qu'elle avait traversé, il comprenait pourtant les réticences de son ami.
« Mais j'en ai peut-être fait assez, au fond. » « Tu as raison. »« Pourquoi es-tu venu, sorcier ?»« Pour te voir, ma chère. Tu es une femme difficile à oublier, et je voulais t'informer de la victoire de Richard sur Darkenral. À propos, pourquoi les pièges à loups rôtent-ils près de chez toi ?»« Tu parles comme marche un ivrogne, » soupira Adi, « en zigzag, mais pas dans une direction bien précise. »
Elle désigna la table, indiquant qu'il devait y disposer les assiettes.
« Je savais déjà que nous avions gagné. Le premier jour de l'hiver ne se serait pas bien passé si Ral avait triomphé. Cela dit, je suis contente de revoir ta vieille carcasse osseuse. »
Elle baissa le ton presque menaçante.
« Pourquoi es-tu venu, sorcier ?»
Il s'intéressa à la table, content de fuir un moment le regard vide d'Adi.
« Tu n'as pas répondu à ma question, très cher. Pourquoi ce flot de pièges à loups ?»« À mon avis, ils sont là pour la même raison que toi. Empoisonner la vie d'une pauvre vieille femme. »
Zed revint avec les assiettes, un grand sourire sur les lèvres.
« Je ne vois pas de vieille femme ici. En revanche, il y a devant moi une superbe beauté. Ta langue est plus dangereuse que les griffes d'un piège à loups, sorcier. »
Zed tendit une assiette à la Dame des Ossements.
« Tu as déjà eu des visites de pièges à loups ?»« Non !»
Adi commença à servir le ragoût.
« Quand la frontière était encore là, il restait dans le passage du roi avec les autres monstres. Après la disparition de la frontière, je ne les ai pas vus pointer le bout de leur nez. Mais ils sont arrivés avec l'hiver, et ce n'est pas normal !»
Quand la frontière s'est dissoute, ils ont peut-être simplement traversé le passage, puisque plus rien ne les retenait.
Peut-être. Mais à ce moment-là, la plupart des créatures ont été ramenées dans le royaume des morts. Certaines, libérées de leurs liens, se sont éparpillées dans les environs. Mais je n'ai pas vu l'ombre d'un piège à loup avant le début de l'hiver, il y a environ un mois. Quelque chose a dû se passer.
Zed savait très bien quoi, mais il préféra ne pas le dire.
Adji, pourquoi ne pars-tu pas d'ici? Viens avec moi en Aïdindril et...
Non!
Cria Adji, qui parut surprise par sa propre véhémence.
Je suis ici, chez moi.
Zed la regarda finir de servir le ragoût. Quand ce fut fait, elle vint poser son assiette sur la table, alla chercher une miche de pain sur une étagère cachée derrière un rideau rayé bleu et blanc, et désigna une chaise à Zed. Il s'assit et attendit que la dame des ossements ait coupé une tranche de pain qu'elle poussa vers lui du bout de son couteau sans le regarder en face.
« Zed,
souffla-t-elle,
ne me demande pas de partir de chez moi.
Je m'inquiète seulement pour toi, Adji.
Menteur.
Non, je ne mens pas.
C'était seulement le mensonge. »
Zed commença à manger avec enthousiasme.
« C'est délicieux, »
dit-il la bouche pleine. Adji le remercia d'un petit signe de tête. Il engloutit sa portion puis alla se resservir et, en revenant s'asseoir, désigna de la main, donc du bout de sa cuillère, l'intérieur de son ami.
« Tu as une très jolie maison, vraiment !»
Il s'assit, prit la miche qu'Adji lui tendait et la cassa en deux.
« Mais tu ne devrais pas y vivre seul, avec tous ces pièges à loups dans les environs, sans parler des autres créatures. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi en Aïdindril ? C'est très joli aussi. Tu t'y sentirais bien et Kalan s'assurerait que tu puisses choisir un endroit qui te plaît. Et si tu vivais à la forteresse, c'est agréable aussi.
Non.
Pourquoi ? Nous serions bien ensemble. Et pour une femme comme toi, la forteresse serait un paradis. Il y a tant de livres et...
J'ai dit non.
Adji continua de manger et Zed se remit aussi à l'ouvrage. Mais il n'avait plus vraiment d'appétit.
« Adji,
déclara-t-il en posant sa cuillère,
« je ne t'ai pas tout raconté. Tu voudrais que j'aie l'air surprise? Désolé, mais je ne sais pas jouer la comédie. »
Adji reprit une cuillère de ragoût.
« Le voile est déchiré, »
lâcha Zed. Adji se pétrifia, la cuillère à mi-chemin de sa bouche.
« Foutaise !»
dit-elle sans relever les yeux.
« Tu ne sais rien au sujet du voile. Il ne faut pas parler de ce qu'on ignore, sorcier !»
La cuillère reprit son chemin vers les lèvres de la femme.
« Il est déchiré, je le sais. »
Adji mâcha et avala avant de répondre.
« C'est impossible, sorcier !» Le voile ne peut pas être déchiré.
Elle se leva et saisit son assiette vide.
Tranquillise-toi, vieil idiot. Si le voile était déchiré, les pièges à loups seraient le cadet de nos soucis. Mais ça n'est pas le cas.
Zed tourna la tête pour regarder la dame des ossements boitiller jusqu'au chaudron.
La pierre des larmes est dans notre monde,
lâcha-t-il. Adji s'arrêta et lâcha son assiette qui tomba à ses pieds.
« Ne dis pas des choses pareilles à voix haute »
murmura-t-elle.
« Sauf si tu en es absolument certain. Et je veux dire, certain sur ton honneur de premier sorcier. Car si tu mens, cela revient à offrir ton âme au gardien.
Que mon âme finisse entre les mains du gardien si je te mens, et qu'il s'en empare sur le champ. » « La pierre des larmes est dans notre monde, et je l'ai vue. »«
Que les esprits du bien nous protègent. Sorcier, dis-moi quelle bêtise tu as faite. »«
Adji, viens t'asseoir. D'abord, tu dois me raconter pourquoi tu vis ici, dans ce qui était jadis le passage du roi, et pour quelle raison tu ne veux pas en partir. »
La dame des ossements se retourna lentement.
« Ça ne te regarde pas. »
S'aidant d'une main posée sur le dossier de sa chaise, Zed se releva.
Paddy, je dois savoir. C'est important, car ainsi je découvrirai si tu peux m'aider grâce à ton expérience. Je sais que tu vis avec un terrible chagrin enfoui en toi. J'ignore ce qui l'a provoqué, mais je mesure sa profondeur. Confie-toi à moi, je t'en prie. C'est un sorcier qui te le demande. Ne m'oblige pas à l'exiger en ma qualité de premier sorcier.
Paddy leva enfin la tête.
Très bien. J'ai peut-être gardé cela en moi trop longtemps. Me confier sera sans doute un soulagement. Mais après m'avoir entendu, tu ne voudras peut-être plus de mon aide. En contrepartie, j'exige que tu me racontes tout ce qui est arrivé, absolument tout. Marché conclu.
Paddy boitilla jusqu'à sa chaise. Au moment où elle s'asseyait, le gros crâne posé sur une étagère tomba sur le parquet. Tous les deux le regardèrent, puis Zed alla le ramasser et le tint à deux mains, ses doigts éprouvant prudemment des crocs aussi longs que ses mains. Parfaitement plat à la base, le crâne n'aurait pas dû pouvoir rouler de l'étagère. Pensif, Zed le remit en place sous le regard d'Adi.
« Les os ont envie d'être sur le sol, » dit-elle. « Ces derniers temps, ils n'arrêtent pas de tomber. »
Zed fronça les sourcils à l'intention du crâne baladeur et revint s'asseoir.
« Parle-moi des os. Je veux savoir pourquoi tu les collectionnes et ce que tu en fais. Nommez rien et commence par le commencement. Ne rien omettre. »
Paddy regarda la porte comme si elle voulait s'enfuir.
« C'est une histoire difficile à raconter et douloureuse. »« Je n'en répéterai jamais un mot, Paddy. C'est juré. »